Midi et demi et bienvenue si vous nous rejoignez. On vous retrouve Fabienne Lemoyle pour les informations. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
On a appelé hier trois fois le placier et la mairie. Il n'y avait pas d'interdiction. Et ce matin, à 9h30, on nous interdit.
Les mesures d'interdiction de rassemblement dans plusieurs communes de l'Oise commencent à se mettre en place depuis ce matin. Nous serons à Crépy-en-Valois. Ce sont en tout 100 cas de coronavirus qui sont recensés en France. Vous entendrez Martin Hirsch, le patron des hôpitaux parisiens, pour qui seuls les malades les plus atteints et les plus fragiles doivent être hospitalisés. Et avec Marion Gauthier, nous ferons le point sur les mesures d'interdiction de rassemblement sur l'ensemble du territoire. Et maintenant, que va-t-il se passer pour la réforme des retraites après le déclenchement du 49-3? Quel texte va être adopté? Alors que la discussion avait déjà commencé à l'Assemblée. Réaction ce matin de Yannick Jadot, le patron d'Europe Écologie Les Verts, à cette décision du gouvernement.
Depuis le début de la réforme des retraites, je crois qu'à chaque étape, le gouvernement a choisi la pire des solutions.
Nous serons en Vendée. La Faute-sur-Mer rend hommage aux victimes de la tempête Xynthia. C'était il y a 10 ans.
On n'oubliera pas et ça nous oblige aussi à agir pour que plus jamais telle catastrophe ne se reproduise.
Cérémonie en présence de la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne. Toujours dans le journal de la mi-journée, le paquet de cigarettes à 10 euros, le journal des sports avec le derby Saint-Étienne-Lyon et puis la météo avec 15 départements en vigilance orange-vent, nous dira Valérie Darmon.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Le gouvernement est donc passé à la vitesse supérieure pour limiter la diffusion du coronavirus. Plusieurs mesures contraignantes annoncées hier qui prennent en effet depuis ce matin sur le terrain. Exemple dans l'Oise, principal foyer avec 36 cas sur la centaine recensée en France. Du coup, tout rassemblement est interdit dans 5 communes, dont Crépy-en-Valois où vous vous trouvez, Théo Manval. Et vous me l'avez dit Théo, ces mesures d'interdiction se mettent en place avec un peu de confusion.
Oui, gros quiproquo sur le marché ce matin. Les primeurs, maraîchers, bouchers sont venus s'installer comme d'habitude aux aurores. À la suite, c'est Loïc, marchand de fruits et légumes, qui la raconte.
On était là depuis 6 heures, on était en train de vendre et la gendarmerie, ils ont interdit de vendre. On a dû faire repartir nos clients.
Vous n'aviez pas été prévenu?
On a appelé hier trois fois le placier et la mairie. Il n'y avait pas d'interdiction. Et ce matin, à 9h30, on nous interdit. Nous, la marchandise est là, on en fait quoi? Et à côté, vous avez Carrefour qui est ouvert. Cherchez l'erreur.
Effectivement, à moins de 20 mètres de là, de l'autre côté de la rue, la grande surface n'est pas concernée par l'arrêté. Difficile à comprendre pour ses habitants.
Là, on est en plein air, on risque presque rien. Et puis là-dedans, c'est tout confiné. Et puis, c'est du n'importe quoi.
C'est un attroupement aussi dans un magasin. On est tous...
On est dans une communication brouillonne, quoi.
Et même l'adjoint au maire que j'ai croisé ici, Fabienne, a du mal à comprendre cette distinction. Vous demanderez au préfet, fin de la discussion... Ces mesures n'empêchent pas, en tout cas la grande majorité des gens, de faire leurs courses tranquillement dans les boutiques du centre-ville.
Bon, on ne va pas faire comme tout le monde. Hier, je voyais des gens qui mettaient des désinfectants sur les boîtes de concert, tout ce qui touchait, mais il faut arrêter là. Et c'est pas la peste là, le truc. C'est comme une grippe. Hein. Même si on peut l'attraper, ça se guérit aussi. Hein.
Enfin, autre habitude chamboulée ici, la messe, comme partout dans l'Oise, n'a pas eu lieu ce matin à Crépy-en-Valois, interdite jusqu'à nouvel ordre.
Théo Manval à Crépy-en-Valois pour Europe 1. Je vous le disais donc, ce sont 100 cas de coronavirus qui sont recensés en France. Nous sommes désormais au stade 2 de l'épidémie avec donc des mesures qui évoluent. C'est pour cela que ce matin, Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, a expliqué sur Europe 1 qu'il fallait accueillir en priorité à l'hôpital les malades les plus atteints et les plus fragiles.
Priorité numéro 1, c'est on est tous là pour éviter qu'il y ait des morts de cette maladie. Priorité numéro 2 qui va avec la priorité numéro 1, on est tous là pour que les hôpitaux fonctionnent, puissent se concentrer sur les malades importants. Si tout d'un coup, on dit à tout le monde qui connaît quelqu'un qui est allé en Italie ou qui même connaît quelqu'un qui est allé dans l'Oise, il y aura l'ensemble de la population. Alors que votre mère âgée fragile, on lui dirait de rester à l'hôpital. Donc à l'hôpital. Il faudra comprendre qu'il y a, et ça sera très important dans les jours qui viennent, qu'on peut être porteur du corona sans qu'on vous demande d'être hospitalisé, comme quand vous avez la grippe. Si on hospitalisait tous les gens qui avaient la grippe, l'hôpital, il y aurait 50 personnes par chambre.
Martin Hirsch, qui était l'invité de Bernard Poiret ce matin sur Europe 1. Alors parmi les mesures annoncées hier, il y a l'interdiction de tout rassemblement de plus de 5000 personnes dans un espace confiné sur l'ensemble du territoire. Et dans le viseur, les salles de concert par exemple, qui ont déjà commencé à annuler certains spectacles. Et puis depuis ce matin, on parlait de confusion au niveau du marché de Crépy-en-Valois dans l'Oise. Confusion aussi au niveau du musée du Louvre, qui n'a pas ouvert ses portes à l'heure prévue. Visiblement, Marion Gauthier, certains agents gouvernements attendent des réponses sur la conduite à tenir face à cette épidémie.
Oui, les nouvelles directives auraient inquiété le personnel ou du moins soulevé des questions. Alors la direction du musée a fait une réunion d'information ce matin avant d'accueillir les visiteurs. Devant la pyramide, leur file s'allonge et s'impatiente. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de touristes disent leur déception, mais surtout leur incompréhension face à un événement qui n'avait pas été annoncé. Le service communication du Louvre que nous avons joint assure que les portes vont rouvrir. Hier, tous les musées affirmaient d'ailleurs qu'ils resteraient ouverts jusqu'à nouvel ordre. Les annonces du ministère de la Santé concernent aussi les salles de spectacle. 80 en France sont couvertes et peuvent accueillir plus de 5000 personnes. Des rassemblements désormais interdits. L'Accor Hôtel Arena à Paris devait par exemple accueillir ce soir une compétition de hip-hop juste debout, annulée, comme le concert de Gims qui devait se produire vendredi prochain au Zénith de Nantes. Les directeurs de salles craignent maintenant que le gouvernement décide de passer au niveau 3. Là, ce sont les rassemblements de plus de 1000 personnes qui seraient interdits.
Marion Gauthier, autre mesure qui disparaît avec le passage au stade 2 parce que le virus circule désormais sur tout le territoire. Plus besoin, a dit hier le ministre de la Santé, de confiner les personnes qui rentrent de zones à risque situées hors de France, comme par exemple les élèves qui rentraient de vacances en Lombardie ou en Vénétie, qui avaient été placés en quarantaine et ils pourront retourner dès lundi à l'école, a dit le ministre. Toutes ces mesures, on en reparlera avec mon invité Anne-Claude Crémieux, professeur de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. C'est donc au cours d'un conseil des ministres exceptionnel que ces mesures sur le coronavirus ont été discutées, mais à l'ordre du jour de ce conseil, et ça a été la grosse surprise de l'après-midi pour les députés, il y a eu aussi l'autorisation donnée au Premier ministre d'utiliser le 49.3 pour faire adopter à l'Assemblée nationale la réforme des retraites. C'est donc Édouard Philippe qui est venu engager la responsabilité du gouvernement à 17h30. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Jean-Rémy Baudot ?
Eh bien Fabienne, concrètement, depuis hier aux alentours de 17h30, les discussions sur la réforme des retraites sont suspendues à l'Assemblée avec ce 49.3. Vous le disiez, Édouard Philippe engage la responsabilité de son gouvernement sur un nouveau texte. Car rappelons-le, ce texte n'est pas la version originale proposée à l'Assemblée en février. C'est un nouveau texte contenant, selon Matignon, tous les accords et convergences entre les organisations syndicales et patronales. L'exécutif a aussi sélectionné plus de 200 amendements de la majorité de l'opposition sur la pénibilité ou l'emploi des seniors. Quelques exemples, l'UDI a obtenu que les pensions de réversion soient possibles pour les couples pacsés ou encore les communistes que les éboueurs bénéficient de la clause du grand-père. Politiquement, le prochain rendez-vous, en fait, c'est mardi. Les deux motions de censure déposées à la fois par la droite et par la gauche vont être étudiées à l'Assemblée. Elles pourraient techniquement faire rejeter le texte et faire tomber le gouvernement, mais mathématiquement, elles n'ont aucune chance d'aboutir. Le texte sera ainsi adopté en première lecture avant d'être étudié au Sénat. L'opposition attend déjà le projet de loi pour tenter de riposter. Reste à savoir quelle sera en fait la réaction des syndicats qui, eux, continuent de négocier au sein de la conférence de financement. Édouard Philippe leur a adressé un courrier hier soir. La CGT annonce, elle, déjà de nouvelles mobilisations.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1 et dans l'opposition, réaction justement ce matin sur Europe 1 du patron d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Il répond donc à ce qu'il considère comme un passage en force du gouvernement.
Depuis le début de la réforme des retraites, je crois qu'à chaque étape, le gouvernement a choisi la pire des solutions. Il réunit un conseil des ministres hier pour aborder la question du coronavirus et on apprend qu'en catimini, c'était essentiellement pour finalement donner l'opportunité au Premier ministre de faire une déclaration sur le 49.3. Et puis, à partir du moment où notre pays est confronté à une menace d'épidémie forte, à partir du moment où on voit notre pays est pris par beaucoup de brutalité, de tension, le gouvernement aurait dû prendre justement cette période comme une nécessaire période d'apaisement. Et en fait, le gouvernement continue à jouer l'épuisement, continue à diviser ce pays.
Yannick Jadot, le leader des Verts, qui était l'invité du grand rendez-vous européen, CNews Les Échos. Ça ne vous a pas échappé si vous êtes fumeur. Le cap symbolique du paquet à 10 euros a été atteint ce matin, toujours avec cette même idée que le fait de payer plus cher pour fumer va pousser certains à s'arrêter. Alors qu'en pensent les fumeurs ? C'est la question que Marine Protet leur a posée.
J'essaie d'arrêter de fumer depuis 10 ans à peu près, j'y arrive toujours pas. Donc je suis pas persuadé que le prix, ça va changer quelque chose pour moi.
Là qu'on est passé à 9,30€, au début on râlait, etc. Puis au final, on n'y pense même plus. On achète nos paquets de cigarettes à 9,30€. Et là, je pense que ça va être pareil sur les paquets à 10€.
Le problème, c'est que ça va faire venir beaucoup plus de clubs de l'étranger, je pense. Je suis allé en Italie il y a 2 mois et 5€ le paquet, forcément, j'ai pris 2 cartouches.
Ça reste une drogue. Donc une fois qu'on est drogué, on est dedans. On a les moyens ou pas de le faire, on va le faire. On sacrifie quelque chose pour avoir de l'argent pour nos cigarettes. Moi, ça va être pour les courses. Je vais en faire moins ou je vais prendre des choses de moins bonne qualité. Et le temps qu'on essaye d'arrêter de fumer, en attendant, on les achètera à 10€.
À suivre, nouvelle cérémonie d'hommage à la Faulx-sur-Mer en Vendée, 10 ans après la tempête Xynthia qui a fait 29 morts rien que dans cette commune. Cérémonie en présence de la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne.
Il est 12h41, la suite du journal sur Europe 1, c'est avec vous Fabienne Lemoine.
Une nouvelle cérémonie d'hommage à la Faulx-sur-Mer en Vendée aujourd'hui, 10 ans après la tempête Xynthia qui a fait 29 morts rien que dans cette commune. Cérémonie en présence de la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne, sur place pour Europe 1, Charles Guyard.
Nous allons procéder au dépôt de gerbes en hommage aux victimes de la tempête Xynthia.
Des victimes à qui un hommage national a donc été rendu en fin de matinée ce dimanche par Elisabeth Borne. Sous une pluie battante et dans les fortes rafales de vent, la ministre de la Transition écologique et solidaire a égrené au micro les 29 noms de celles et ceux disparus durant cette nuit tragique du 27 au 28 février 2010.
Limousin, Louisette.
Et autour de l'esplanade du mémorial, une petite centaine de personnes, officielles compris, tend l'oreille pour écouter, alors qu'on perçoit le murmure de l'océan. Il n'est qu'à quelques mètres derrière une digue surélevée depuis Xynthia. Après avoir déposé une gerbe, Elisabeth Borne salue tour à tour les familles, les pompiers et les membres de la protection civile.
On n'oubliera pas et ça nous oblige aussi à agir pour mieux protéger nos concitoyens, pour que plus jamais telle catastrophe ne se reproduise.
Et comme un symbole, la Vendée a été placée en vigilance orange ce dimanche par Météo France, une façon de rappeler la vulnérabilité d'une petite cité balnéaire plantée en bordure d'océan.
Mesdames et messieurs, fin de cérémonie.
La Faulx-sur-Mer, Charles Guyard, Europe 1.
À l'étranger, la tension monte à la frontière entre la Turquie et la Grèce après la décision d'Ankara de laisser passer les migrants, dont beaucoup sont des réfugiés venus de Syrie. Au moins 2000 personnes sont arrivées aujourd'hui dans la zone frontalière en marchant à travers les champs. Ce matin, sur Europe 1, l'ambassadeur de Turquie en France, Ismail Akimouza, a justifié au micro de Patrick Cohen la décision de son pays d'ouvrir les frontières. Décision prise après plusieurs offensives du régime de Damas contre des militaires turcs.
L'Europe n'est pas à la hauteur de ses promesses.
Alors,
nous avons averti, pas seulement aujourd'hui et hier, depuis le début de la crise syrienne. On a dit, mais écoutez, chers amis, Européens, Occidentaux, Américains et autres, nous ne pouvons plus épauler ce fardeau seul.
Le fardeau des réfugiés.
Le fardeau des réfugiés, oui. Il y a déjà 3 700 000 en Turquie. Il y a presque 2 millions dont on assume la subsistance à l'intérieur de la Syrie, et maintenant il y a plus de 1 million en route. Mais franchement, c'est beaucoup.
L'ambassadeur de Turquie en France, qui était l'invité de Patrick Cohen ce matin, dans C'est arrivé demain sur Europe 1.
Le journal des sports.
Avec Axel May, bonjour Axel.
Bonjour.
Et on commence avec du football et cette affiche de la 27e journée de Ligue 1. Le derby, sous tension, quand je dis derby, vous dites...
L'OL face à Saint-Etienne, oui. Bien sûr, ce sera ce soir. On va en parler dans un instant. Je vous redonne juste d'abord quand même les résultats d'hier. Avec cet annoté, un seul match nul entre Monaco et Reims, un partout. Sinon, victoire d'Angers à Brest, 1-0. De Metz à Amiens sur le même score. Rennes consolide sa 3e place en battant 2-0 Toulouse. Montpellier a fait plier Strasbourg 3-0. Large succès, comme souvent, du PSG, en l'occurrence face à Dijon, 4-0.
Deux matchs cet après-midi avant le derby, donc.
Nantes-Lille à 15h, Bordeaux-Lille à 17h, et puis donc effectivement ce derby du Rhône à 21h, 120e derby de l'histoire entre Lyon
derby
et Saint-Etienne.
Derby du Rhône, Lyon, Saint-Etienne dans la Loire, mais je vous laisse.
60 000 spectateurs attendus, et l'entraîneur de l'OL, Rudy Garcia, réclame la victoire, un point, c'est tout.
Un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Donc, on espère être très bon, on espère jouer un beau football. Et puis, si c'est pas le cas, ce qu'il faut, c'est gagner. Bien sûr que c'est un match particulier, mais au-delà de l'adversaire, on veut revenir en championnat, parce que pour l'instant, ça nous convient pas du tout. Et donc, c'est ça qui nous anime surtout, c'est d'aligner une deuxième victoire consécutive, parce qu'on est chez nous, parce qu'on reçoit devant notre public. Voilà, quand on est 12, ça aide à gagner des matchs.
Voilà l'entraîneur rodanien Rudy Garcia, le 12e homme dont il parlait. C'est le public, bien sûr. Côté classement, l'OL n'est que 9e après 26 journées, tandis que Saint-Etienne pointe à la 16e place. Un dernier mot de football pour vous signaler les débuts réussis de Thierry en MLS, le championnat nord-américain. Montréal, dont il est le nouvel entraîneur, a battu hier 2-1 New England en ouverture de ce championnat.
Et puis en rugby, deux belles affiches aujourd'hui.
Avec d'abord Bordeaux-Bègles, leader du championnat de France, qui reçoit Castres. Le match est en train de commencer. Le manager de l'UBB connaît bien le Castres Olympique puisqu'il a été champion de France avec cette équipe castraise il y a 2 ans. Alors Christophe Urios a prévenu ses joueurs de Bordeaux-Bègles.
L'adversaire n'est pas facile à jouer, donc il faut qu'on soit bien ensemble, qu'on reste très concentré pendant tout le match, qu'on soit capable de bien faire le jeu qu'on a préparé et ensuite le faire le plus simple possible. Le problème, c'est faire la loi chez nous. Et ça fait 3 fois qu'ils gagnent chez nous, ça suffit maintenant. Ça suffit. Ça suffit.
Voilà, vous l'avez compris, ça suffit. Parole de Christophe Urios, le manager de l'UBB. Puis autre affiche, même si les deux équipes ne sont plus tout en haut du classement, à 16h50, Toulon reçoit le Stade français, toujours bien sûr dans le cadre du championnat de France de rugby.
Merci beaucoup Axel May. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche. On parlait de la Vendée placée en vigilance orange. Valérie Darmon, ce n'est pas le seul département, 15 départements en vigilance vent jusqu'à ce soir 21h.
Oui, de la Vendée jusqu'en Bourgogne. Alors résultat, il pleut depuis ce matin de la Charente-Maritime aux Deux-Sèvres et justement à la Vendée. Le vent de son côté s'est nettement renforcé aussi sur les îles charentaises. Météo France a observé 85 km/h en pointe à la pointe justement de l'île de Ré, 75 à Chassiron, à la pointe de l'île d'Oléron. Le vent qui va encore se renforcer au passage de la dépression pour atteindre des valeurs de 100 à 110 pendant quelques heures cet après-midi. Et il pourrait dépasser 120 sur les côtes vendéennes et charentaises. Les rafales les plus fortes, 95 à 105, sont attendues ensuite dans le Poitou, dans le centre, le nord du Massif central et la Bourgogne. Et le sud des départements de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire pourrait ponctuellement être exposé aussi à des rafales à 100 km/h dans leur partie sud, tout comme les départements pyrénéens aussi. Et facteur aggravant, il sera accompagné, ce vent violent, de pluies fortes, localement orageuses, qui vont donner des cumuls significatifs en ce moment.
Et comment ça va évoluer la nuit prochaine et demain ?
Pas terrible. On a en cours de nuit une nouvelle perturbation, la troisième en 3 jours, qui balaye le pays d'ouest en est. Au lever du jour, vont être arrosées les régions allant des Hauts-de-France au bassin parisien, du centre-Val de Loire à la Nouvelle-Aquitaine et à l'Occitanie, en passant par l'Auvergne. Les précipitations qui seront un peu plus marquées dans la partie sud toujours et qui vont aussi donner de fortes chutes de neige. Attention au risque d'avalanche sur l'ensemble des massifs. Donc un temps maussade encore, surtout demain après-midi, après un petit temps d'accalmie relatif sur la matinée.
Merci beaucoup Valérie Darmon avec ses 15 départements en vigilance orange. Donc à suivre, on va revenir sur les mesures annoncées par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus. On en parle dans un instant avec mon invité Anne-Claude Crémieux, professeure de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris.
Le journal de la mi-journée se poursuit à 12h51 avec votre invité Fabienne Lemoyle.
Et le gouvernement est donc passé hier à la vitesse supérieure pour limiter la diffusion du coronavirus maintenant que nous sommes au stade 2 de l'épidémie en France. Annulation de gros événements comme le semi-marathon de Paris, fermeture anticipée du salon de l'agriculture ou encore interdiction, on en parlait dans le journal, des rassemblements de plus de 5000 personnes dans des milieux confinés. Bonjour Anne-Claude Crémieux.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en studio avec nous ce midi à Europe 1. Vous êtes professeur de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous avez écrit « Gouverner l'imprévisible pandémie grippale, SRAS et crise sanitaire », situation dans laquelle on se trouve précisément avec l'apparition de ce coronavirus baptisé Covid-19. Une première question, Anne Crémieux, tout simplement, cette nouvelle batterie de mesures, c'était indispensable pour freiner la contamination ?
Oui, très clairement, on est passé dans une autre phase, c'est-à-dire qu'il y a des zones de transmission actives sur notre territoire. Nous ne sommes pas le seul pays dans lequel ça arrive à cette échelle. Il y a d'autres pays, comme par exemple Singapour, qui ont à peu près une centaine de cas. On sait de façon claire que dans ces cas-là, en plus des mesures déjà prises, qui sont la recherche de cas contacts et l'isolement des patients, il faut éviter les rassemblements de population. Il faut prendre ce qu'on appelle des mesures barrières qui permettent de freiner la diffusion du virus, en particulier dans les zones où il a été détecté.
Alors justement, Anne Claude-Crémieux, à ce stade, c'est quoi le message le plus important à faire passer auprès du public ? Vous parlez de mesures barrières, ne pas serrer la main, on ne sait pas serrer la main aujourd'hui pour se dire bonjour, ne plus faire la bise. Pourquoi c'est si important alors que ça peut apparaître, ça peut faire sourire parfois ?
Il y a des mesures à l'échelon individuel et collectif qui freinent la diffusion des virus, d'une manière générale, des virus respiratoires. Je crois que la première mesure qui est du bon sens, mais qu'il faut répéter, c'est que quand on a des symptômes respiratoires, on essaye de rester chez soi et en tout cas, on évite de contaminer les autres, soit en portant un masque, soit en couvrant sa bouche, en utilisant des gels hydroalcooliques. D'une façon générale, en période d'épidémie de virus respiratoires, les mesures d'hygiène doivent être renforcées, effectivement, comme le lavage des mains. Et effectivement, une mesure aussi de bon sens, c'est de ne pas aller dans les zones où le virus circule de façon intense, parce que quand on revient, on met à risque ses proches.
Alors, on le voit, chaque pays, vous avez parlé de Singapour, décide de sa propre batterie de mesures, plus ou moins contraignante. Je vais prendre un seul exemple. En France, donc, on interdit les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné. Ça peut concerner un concert, c'est un match basket qui est en salle. Quand en Suisse, le gouvernement lui a interdit la tenue de tout événement public ou privé réunissant plus de 1000 personnes. On n'a pas la même jauge. Absolument. Ça veut dire que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ne donne pas, j'ai envie de dire, une série de mesures à appliquer dans chaque pays. Chacun décide comme il veut.
Absolument. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, tout rassemblement va favoriser la diffusion du virus. Mais aujourd'hui, il y a une incertitude scientifique sur le fait de pouvoir vous dire à partir de quel niveau de population le risque est plus ou moins grand. Par conséquent, quand il y a une incertitude scientifique, c'est le politique qui va prendre ses décisions. Cette décision, elle est multifactorielle et on voit bien qu'elle est variable. Ce qui est important, c'est que le politique explique les raisons de sa décision, parce que s'il ne les explique pas, si ce n'est pas transparent, c'est un facteur de défiance.
Alors justement, on va écouter le ministre de la Santé qui intervient quotidiennement avec le directeur général de la Santé pour donner le nombre de cas, pour expliquer justement certaines mesures. On a une centaine de cas au dernier décompte en France. On va écouter ce que Olivier Véran disait hier en sortant du Conseil des ministres exceptionnel à propos des mesures de mise en quarantaine de personnes de retour de zones de foyer de virus hors de France, comme la Lombardie ou la Vénétie.
Certaines mesures propres au stade 1 n'ont plus de raison d'être. Le virus ne vient plus seulement de Chine ou des régions orange d'Italie, il circule déjà. Il n'y a plus vraiment de raison de confiner des personnes qui reviendraient de zones que nous avions classées en orange. Nous continuons à déconseiller fortement les voyages non nécessaires hors de la zone euro et au sein de la zone euro dans les zones classées orange, les zones à risque. Mais nous pouvons lever des contraintes qui ne se justifient plus, et en particulier concernant les élèves de retour de Lombardie et de Vénétie, qui pourront retourner dès à présent à l'école.
Voilà, on l'entend donc. Olivier Véran, le ministre de la Santé, dit que comme le virus circule désormais dans le pays, les personnes, donc certains élèves qui rentraient de voyage de Lombardie et à qui on avait recommandé dans un premier temps de rester chez eux, peuvent retourner en cours dès lundi. C'est quoi l'explication de l'infectiologue que vous êtes ?
Alors, je pense qu'il faut vraiment la demander aux politiques, parce que on est dans une situation où effectivement le virus circule, mais dans des zones limitées, et par conséquent on est parfaitement fondé à essayer de continuer à limiter cette transmission, en particulier hors de ces zones. Et effectivement, si le ministre a pris cette décision, ce serait intéressant qu'on en comprenne les raisons.
Alors, ça fait maintenant justement 2 mois que cette épidémie a débuté. Est-ce qu'on a une idée précise de ce qu'est ce coronavirus ? Vous qui parlez du caractère imprévisible, oui. Est-ce qu'on sait le nombre de personnes que peut contaminer un malade ? La mortalité justement qu'on a sur ce virus ? Est-ce qu'on a un modèle en fait pour voir comment l'épidémie va évoluer ?
Alors, on sait beaucoup de choses et grâce à la circulation incroyable des données scientifiques et notamment, on sait le nombre de personnes moyennes que peut contaminer une personne infectée, qui est entre 2 et 3. On sait quel profil de de personnes risquent de faire des formes sévères. Ça, c'est très important, bien sûr, parce que ce sont des personnes qu'on va avoir tendance à hospitaliser, alors que d'autres, on va pouvoir les laisser confiner chez elles, même si elles sont malades. Et on sait que c'est les personnes plus âgées qui ont d'autres pathologies, comme des pathologies cardiovasculaires et respiratoires. Tout ça est fondamental. Et on sait même, quand même, d'après l'expérience en Chine, même si aujourd'hui les chiffres remontent, mais l'autre expérience à Singapour, encore une fois, sur laquelle on peut un peu se calquer, que ces fameuses mesures barrières peuvent être efficaces. Et par conséquent, on est aujourd'hui à un moment clé où on a probablement intérêt à les utiliser au maximum.
Quand est-ce qu'on saura qu'on est à un pic, Anne-Claude Crémieux ?
Alors, le pic, ça reste pour l'instant une incertitude.
Parce que vous l'avez dit, effectivement, en Chine, les cas avaient stagné et ce matin, on voit que les cas quotidiens remontent.
Absolument. Il peut y avoir plein de raisons, y compris une certaine reprise
de la circulation des personnes.
Absolument. Qui, effectivement, et d'ailleurs, c'est à contrario, qui démontre que la diminution de la circulation permet de freiner l'épidémie. Il y a encore des incertitudes. Et notamment, quelle est la part des personnes peu symptomatiques dans l'ensemble de cette épidémie ? Ça, c'est une vraie inconnue. On a, en voyant tous ces, finalement, ces pays dans lesquels se déclarent des foyers dans lesquels on ne trouve pas de patients zéro, c'est-à-dire de patients qui a un contact avec l'étranger où la zone circule, où le virus circule, on sait que ces formes post-symptomatiques jouent certainement un rôle dans la diffusion du virus, mais quel est leur poids, on ne sait pas. Donc il y a encore, quel est le poids de la saison sur l'évolution ?
Justement, c'était ma dernière question, un taux de Crémieux. Qu'est-ce qui peut freiner l'épidémie ? Certains infectiologues disent... La chaleur, dès qu'il va faire un petit peu plus chaud, ça va freiner la propagation du virus.
Je crois qu'il faut garder une certaine humilité de l'expertise. On ne le sait pas. Par conséquent, on peut le désirer, mais effectivement, on doit être extrêmement prudent avant de l'affirmer.
Merci beaucoup à Claude Crémieux, je rappelle, professeur de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, d'avoir été avec nous ce midi. On le voit encore beaucoup d'incertitudes. Vous avez écrit d'ailleurs « Gouverner l'imprévisible ». On voit qu'on est dans ce cas-là et c'est publié aux éditions Lavoisier. Merci à vous. Vous le savez, nous continuons cette tranche d'information dans quelques minutes à 13h avec les carnets du monde de Sophie Larmoyer. Bonjour Sophie, vous n'échappez pas vous non plus au coronavirus.
Bonjour Fabienne, on n'y échappe pas, non, c'est une préoccupation mondiale et chaque pays réagit avec sa culture. Au Japon par exemple, c'est la désinfection permanente, avec son histoire aussi. En Côte d'Ivoire, on a connu la fièvre hémorragique Ebola et on ressort les thermomètres. En Afghanistan, on sait que le pays en guerre serait incapable de faire face à une épidémie. Bref, on va faire un petit tour du monde.
Merci beaucoup Sophie, à tout de suite.
Bon dimanche avec Europe 1. Le rappel des titres de l'info de ce dimanche 1er mars, Fabienne Lemoyle.
Et les mesures annoncées hier par le gouvernement pour ralentir la propagation du coronavirus qui commence à être mise en place notamment dans l'Oise. Interdiction de rassemblement par exemple dans 5 communes de ce département. Selon un dernier décompte, 100 cas de coronavirus sont recensés en France, donc 36 rien que dans l'Oise. D'où des mesures plus contraignantes sur l'ensemble du territoire. Plus question désormais d'avoir des rassemblements de plus de 5000 personnes dans des espaces confinés. Nous vous disons dans le journal de la mi-journée, le musée du Louvre n'a pas ouvert ses portes ce matin et la situation pourrait durer si l'on en croit un syndicaliste CGT que nous venons de joindre. D'après lui, une assemblée générale s'est tenue pendant près de 3 heures ce matin. À 2 fois près, le personnel du plus grand musée du Louvre a décidé d'exercer son droit de retrait face au coronavirus. Droit de retrait que l'on peut exercer quand on estime qu'il y a un danger grave et imminent. La direction du Louvre dit n'avoir pas d'informations pour l'instant à communiquer officiellement. On ne sait pas encore si le musée va rouvrir et à quelle heure. Toujours dans l'actualité, le déclenchement du 49-3 par le gouvernement pour faire passer sans vote la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Notez que Laurent Berger, le leader de la CFDT, sera l'invité de Sonia Mabrouk demain à 8h15 dans la matinale de Mathieu Béliard.
Et on refera un point sur l'info dans une heure. Fabienne, je vous dis à ce soir pour le journal de 18h aux côtés de Wanny Bouchard.
Europe 1. Écoutez le monde changer.